Bienvenue sur les chroniques de la Revue française de comptabilité, à l'occasion de la parution de son 600e numéro, et oui, des 70 ans de la revue, la RFC publie une édition spéciale. Aujourd'hui, on explore ensemble un article vraiment intéressant d'Alain Burlot, qui est professeur émérite au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Cet article s'intitule « Un métier, une devise. Science, indépendance, conscience ». Il analyse en fait pourquoi l'expertise comptable est une profession réglementée. L'idée, c'est que ce n'est pas juste un service comme un autre, c'est une fonction de confiance publique. D'ailleurs, l'auteur fait une analogie avec la médecine. Il faut des garanties solides sur le savoir, sur l'éthique et sur l'engagement pour l'intérêt général. Et c'est là que trois piliers entrent en jeu.
C'est tout à fait ça. Dans une économie de marché, normalement, la liberté prévaut. Donc, encadrer une profession, ça demande une justification solide, et pour les experts comptables, cette légitimité, elle repose sur ce triptyque fondamental qui est d'ailleurs la devise de l'ordre science, indépendance, conscience. Et ce n'est pas qu'un slogan, le code de déontologie le reprend à l'article 145, il me semble, en exigeant d'exercer avec compétence, conscience pro et indépendance d'esprit.
D'accord. Alors, commençons par ce premier pilier. La science, qu'est-ce que ça recouvre exactement? J'imagine que ce n'est pas juste une question de chiffres.
Gilles le dit bien à l'article 142, ça va bien au-delà de la technique pure. Et là, l'enseignement supérieur et la recherche ont un rôle vraiment crucial pour structurer ce savoir, le valider, le transmettre aussi. Le CNAM, par exemple, y contribue fortement.
Et ce savoir, il est assez standardisé, j'imagine, au niveau européen, mondial peut-être?
Oui. Les contenus sont quand même largement harmonisés. Sous l'impulsion d'organismes comme l'IFAC au niveau international ou via les directives européennes, par exemple. Du coup, le niveau d'accès à la profession est élevé. Généralement, il faut un master, le DSCG en France, plus un stage professionnel de 3 ans. Et il y a aussi une petite spécificité française assez intéressante, c'est le mémoire du DEC, on prononce DEC, le diplôme d'expertise comptable. C'est une vraie initiation à la recherche appliquée.
D'accord. Une base solide, donc. Mais j'imagine qu'il faut l'entretenir, cette base.
Ah oui, absolument. La compétence scientifique, ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. La formation continue, c'est une obligation forte, déontologique et réglementaire. Indispensable pour rester à jour.
Donc, un socle de connaissances solides, mise à jour, la science, ok. Mais la compétence seule, ça ne suffit pas. Il faut l'appliquer de manière impartiale. Ce qui nous amène, au deuxième pilier, l'indépendance.
Exactement. Et là, on touche au cœur de la confiance. L'indépendance, c'est l'absence de lien, d'influence, qui pourrait venir compromettre l'intégrité ou l'objectivité du professionnel. Le code de déontologie, à l'article 147, est très clair là-dessus. En gros, il s'agit de faire primer l'intérêt général. Toujours, avant tout autre intérêt, même celui du client. Si ça va contre la loi ou les normes.
Et comment on garantit ça concrètement, cette indépendance?
Alors, au niveau structurel, elle est assurée par la tutelle des pouvoirs publics. C'est les ministères du budget pour l'ordre des experts comptables et celui de la justice pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Et un point que l'article souligne, qui est très important, c'est le rôle de l'État et de l'université dans la délivrance des diplômes. Le DCG, le DSCG, le DEC, ça évite que la profession soit seule à décider qui entre et comment, si vous voulez. Ça garantit une certaine objectivité, une indépendance par rapport aux intérêts purement corporatistes.
Ah oui, je vois.
L'article mentionne aussi l'indépendance statutaire des enseignants-chercheurs qui sont dans les jurys d'examen. C'est protégé par le code de l'éducation, L952-2. Et puis, il y a la double correction anonyme des épreuves écrites. C'est une autre garantie d'impartialité, ça.
Science, indépendance. Reste le troisième pilier, la conscience. Là, on est dans quelque chose de plus personnel, de plus éthique peut-être.
Oui, c'est ça. La conscience, c'est la dimension morale en action. C'est l'engagement au service de l'intérêt général. Ça commence d'ailleurs de manière symbolique avec la prestation de serment. L'article 3 du code de déontologie, c'est « Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité ».
D'accord. Et au quotidien, comment ça se manifeste, cette conscience?
Elle doit irriguer toute l'activité, en fait. Ça veut dire contribuer à la transparence économique, financière, assurer une certaine forme de justice fiscale aussi, participer à la lutte contre la fraude, le blanchiment.